40 jours au désert. Une émission sur l'urgence climatique à la lumière de Laudato Si, proposée par Ivar Dourel.
L'eau potable et pure représente une question de première importance parce qu'elle est indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques. C'est le début du chapitre 28 de l'encyclique de François sur la sauvegarde de la maison commune. Et il termine deux chapitres plus loin. Il est prévisible que le contrôle de l'eau devienne l'une des principales sources de conflits de ce siècle. Pourtant, on le sait, la planète Terre est la planète bleue, recouverte aux deux tiers par les océans et les mers. C'est au cœur des océans, il y a 3 milliards d'années, que les premières cyanobactéries se multiplient. Le vivant est né dans l'eau. Pour tout ce qui vit sur cette Terre, l'eau constitue une part essentielle. Nos corps d'humains sont constitués de près de 80% d'eau. L'eau potable, c'est-à-dire non salée, disponible, ne représente que 1% de la masse totale de l'eau de notre planète. Ce 1% peut suffire à la vie terrestre, mais elle se répartit de façon très inégale selon les lieux et selon les périodes. Inondations ici, sécheresses là, moussons dévastatrices succédant à de longues périodes sans pluie. Le cycle de l'eau que l'on apprend très jeune à l'école est fascinant. L'évaporation par la chaleur du soleil de la surface des mers, le vent qui la transporte sous forme de nuages, les montagnes et les plaines qui la récoltent en neige et pluie, les cours d'eau la recueillent avant de la rendre à l'océan. L'eau, si essentielle, est fragile, sensible à ce qui est rejeté dans les sols, les rivières et même dans les airs. Les eaux souterraines, ces réserves si précieuses, en beaucoup d'endroits sont menacés par la pollution que provoquent certaines activités extractives, agricoles et industrielles, surtout dans les pays où il n'y a pas de régulation ni de contrôle suffisant. C'est au chapitre 29. Tous les jours, les médias énoncent ici des fuites de pétrole, là des épandages de pesticides, ici des décharges sauvages. Et François poursuit: les détergents et les produits chimiques qu'utilise la population dans beaucoup d'endroits du monde continuent de se déverser dans des rivières, dans des lacs et dans des mers. On est surpris par ce regard précis du pape François sur l'activité humaine actuelle et quotidienne et leurs effets désastreux. Il insiste aussi sur le gaspillage de cette eau et constate le problème de l'eau est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité de ses conduites, dans un contexte de grande injustice, manque. Il dénonce cette tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise. Comment faire pour que l'eau potable et sûre soit reconnue comme un bien commun ? Que retenir de cette encyclique si documentée sur la question de l'eau ? L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain, primordial, fondamental et universel. C'est au chapitre 30 et cela nous engage.
Thank you.
La gestion de l'eau est un sujet vraiment complexe. Les acteurs sont nombreux, avec des intérêts qui ne convergent pas. Il y a les agriculteurs qui légitimement veulent irriguer leur culture. Il y a les villes qui ont un besoin croissant en eau, qu'il faut prélever, rendre potable et traiter après usage avant de la redonner au fleuve. Il y a les centrales nucléaires qu'il faut refroidir, l'eau des barrages qu'il faut préserver pour la production d'énergie électrique, et toute la vie aquatique qui meurt sans bruit lorsque le niveau des rivières baisse trop. Se préoccuper de cela, c'est s'intéresser à l'environnement. La définition proposée par l'encyclique au chapitre 139, une relation qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Penser environnement, cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie. C'est pour cela que François insiste. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise. Au chapitre 139. Penser cette complexité nous est vraiment difficile. C'est une autre façon de réfléchir et on a besoin de tous les savoirs. Pouvons-nous entendre cela? Il devient indispensable, au moment de déterminer l'impact d'une initiative concrète sur l'environnement, de donner aux chercheurs un rôle prépondérant dans une grande liberté académique. Faut-il construire cette réserve d'eau ici et de cette façon? Peut-on continuer à consacrer tant de surface à la culture du maïs? Peut-on permettre l'installation de cette nouvelle usine chimique? Les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. C'est au chapitre 161. Il faut le redire avec le pape François. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète. Cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Quelle est notre espérance? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, les béatitudes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur O, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Saint François d'Assise, en l'an 1225. Semaine prochaine, Laudato si et le désert pour le sol sans humus.